Tout au long de l'année, Cité Radio vous propose de l'info locale, de la musique, des bons plans, de la culture, etc. Mais au fait, si Cité Radio n'était pas là, qu'aurions-nous eu à la place ?
Vous êtes sur Fréquence Gueule, la radio qui détruit les enceintes ! Tout de suite, on va passer à l'agenda des sorties ! Jingle ! Le jingle, on se dépêche ! Allez, j'ai pas que ça à faire !
Eh bien, heureusement qu'on ne vous diffusera jamais ça, puisque nous, c'est la positive info.
Salut, c'est Johnny Dapiedad. Si vous aimez la country music, retrouvez-moi dans le Big Cactus Country Radio Show sur Cité Radio, le lundi à 20h et le mercredi à 19h sur 89.3 FM et DAB+ à Tours. Cité Radio, la positive info. The BCC, the Big Cactus
Country. Cité Radio vous donne rendez-vous.
Salut, c'est Guillaume Colomba. Si vous êtes fan des années 80, alors je vous donne rendez-vous dans Rétro Musique pour un voyage dans cette décennie. Vous retrouverez bien sûr le meilleur de la musique, mais aussi des chroniques comme le double titre et la perle rare. A bientôt.
Rétro Musique avec Guillaume Colomba, c'est tous les vendredis à 20h et le dimanche à 19h sur Cité Radio, la positive info.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Cité Radio pour votre émission Tout en Auteur. Ce soir, nous reviendrons sur le salon du livre de Chinon. Vous entendrez nos entretiens avec Luc-Michel Foissier, son frère Éric Foissier et Daniel Thierry. Puis nous partirons en Bretagne, d'abord en recevant Arnaud Delagrange qui présentera La promesse du large, son roman paru aux éditions Gallimard. Puis il y aura Hélène Guesterne pour son roman Sésambre publié chez Grasset. On se retrouve tout de suite avec nos invités.
Tout en Auteur sur Cité Radio. Guillaume Colomba.
Cité Radio, la positive info est aujourd'hui au salon du livre de Chinon et nous sommes avec Luc-Michel Foissier. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de répondre à nos questions. Alors, on aimerait déjà savoir comment est venu cet amour pour les mots en tant qu'écrivain.
Eh bien, je crois que ça part au départ, ça vient de mes parents qui étaient vraiment des fervents lecteurs. Et qui nous ont donné à mon frère et moi cette passion de l'écrit et cette attirance pour les livres. Le livre a toujours eu une place très importante chez nous.
Et vous avez des auteurs favoris ?
Oui, bien sûr. D'autant plus que quand j'apprécie un auteur, j'adore suivre toute son œuvre. Donc c'est le cas pour Jean-Philippe Toussaint, par exemple, qui est vraiment un auteur que vraiment j'apprécie particulièrement. Et donc j'ai eu la chance d'avoir une préface pour l'un de mes précédents romans. Donc c'est un auteur qui m'a appris l'exigence au niveau stylistique, vraiment. Mais j'aime beaucoup Simenon aussi. Voilà, et puis beaucoup d'autres, mais je ne vais peut-être pas tous les citer.
En tout cas, un panel d'auteurs très éclectique. Et puis, votre actualité, Luc-Michel Foissier, c'est Cumulonimbus, hein, votre livre qui est paru le 4 avril 2024 aux éditions Julliard. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer l'histoire de ce livre avec une maman photographe qui part en Auvergne sur les traces de sa fille Calypso ?
Eh oui, donc c'est une maman photographe qui décide de faire un livre sur les pareidolies. Ce sont les formes que l'on imagine dans les nuages, que lorsqu'on voit un visage, un cœur. Et donc elle veut faire ce livre de pareidolies, mais pour ça elle part en Auvergne, parce que c'est le dernier endroit où elle a été heureuse avec sa fille, l'été précédent. Or, sa fille a disparu, l'enquête de police n'a rien donné, et elle va, elle, mener sa propre enquête aussi sur les traces de sa fille. Donc le livre est assez émotionnel, avec une certaine tension, et en même temps assez poétique, puisque à travers ces nuages, les nuages lui renvoient, disons, le reflet de ses pensées, de ses interrogations. Elle s'interroge beaucoup sur ce qui s'est passé avec sa fille. Donc c'est un livre, oui, je pense, assez émotionnel.
Alors comment vous êtes-vous intéressé aux pareidolies ?
Eh bien, c'est un jour, j'ai appris ce mot qui correspondait à ce que tout un chacun a déjà vécu dans sa vie, c'est-à-dire d'imaginer ses formes, principalement dans les nuages. Et j'ai appris ce mot un jour dans une interview de Grégoire Delacour, qui évoquait ça dans un de ses livres, de façon assez comment dire, pas très approfondie, mais en tout cas, il avait prononcé ce mot pareidolie. Ça a été pour moi une illumination. Je ne connaissais pas ce mot. Et enfin, il y avait un mot pour désigner ces effets visuels. Et je m'étais toujours dit que je ferais un roman, ou en tout cas un livre qui parlerait de ça. Et la deuxième raison, c'était aussi que je voulais parler de l'Auvergne. Et des paysages d'Auvergne, ça me paraît un endroit magnifique pour évoquer certaines choses et ça a donné donc Cumulonimbus.
Et comment avez-vous travaillé pour concevoir ce livre avec les éditions Julliard ?
Alors, donc j'aurais proposé le manuscrit par la poste, enfin disons par Internet, et il a été accepté par la directrice littéraire Lisa Liotto. Et après, on a eu un gros retravail, très intéressant avec l'éditrice. On voit quelquefois d'ailleurs les tics d'écriture dont on ne se rend plus très compte, mais au moins l'éditrice, elle qui a un regard vraiment extérieur et qui a un regard nouveau, a principalement traqué ces petits défauts, ces petites choses-là, a ajusté un petit peu. Mais bon, comme ce n'est pas mon premier roman, il était déjà plutôt abouti.
Et vous avez eu des bons retours des lecteurs et des internautes depuis la sortie du livre début avril ?
Oui, pour l'instant, je suis agréablement surpris de voir que je fais pleurer. je suis peut-être un peu sadique là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'émotions dans le livre que souvent, on m'a dit, à la fin, j'avais quand même une petite larme. Et ce qui me plaît, c'est qu'on rajoute souvent aussi que je ne suis pas tombé quand même dans le pathos. Quand même. J'essaie de faire quelque chose d'assez subtil et apparemment, d'après les premiers retours, j'y vais pas avec mes gros sabots et il y a de l'émotion vraiment qui passe. Et je pense une émotion sincère.
Et donc vous êtes invité aujourd'hui au Salon du Livre de Chinon. Vous êtes honoré de participer à cet événement ?
Ah bah tout à fait. Déjà, le simple fait de venir à Chinon, ça avait quelque chose de très exaltant. Je n'avais pas eu encore l'occasion de venir. Et je trouve que la ville est magnifique. On a été très très agréablement accueillis avec beaucoup de chaleur l'équipe organisatrice est vraiment aux petits soins avec nous et les lecteurs, les échanges sont très agréables. J'ai trouvé un public très ouvert et ayant envie de découvrir. Et ça, c'est vraiment plaisant pour un écrivain, qu'il prenne le livre ou pas d'ailleurs. Mais on a vraiment des échanges très intéressants. Et c'est vraiment plaisant.
Il y aura d'autres rencontres qui sont prévues en librairie, dans des salons ?
Oui, la semaine prochaine, je serai à Rive-de-Gier, entre Lyon et Saint-Étienne. Et puis, il y aura des signatures en commun avec mon frère, notamment à la librairie La Bicyclette Bleue, le 6 juin. C'est la bicyclette de la fille de Régine Deforge qui nous invite. Et puis aussi à la librairie de Gérard Collard, La Griffe Noire. Et puis des salons. Tous les week-ends, il y a de l'actualité.
Et pour vous, quel est le rôle de l'écrivain dans notre société ?
Ah, je crois que le livre, c'est la vie. Et je crois que la vie, c'est le livre aussi. Je pense que c'est une vie encore plus accomplie lorsqu'on lit les auteurs, parce que c'est un autre regard. Ça nous force à adopter peut-être un autre point de vue. Et je crois que c'est un éclaireur, l'écrivain. Et parfois, les périodes sont bien sombres et on a besoin de quelques lumières comme ça.
Ce qui est très juste. Et vous pensez déjà à un prochain livre ?
Oui, il y a déjà quelque chose qui est en cours. De toute façon, il y a un livre qui est signé déjà chez L'Arbre Vengeur, qui paraîtra vers la fin de l'année, dans un tout autre genre, plus humoristique, et qui se rapprochera plus de mon roman Les Pantoufles, qui a déjà eu un succès assez intéressant et qui sera un livre assez drôle. Et puis, il y a un manuscrit qui est parti chez mon éditrice, chez Julliard, mais pour l'instant, je l'ai envoyé il n'y a pas très longtemps, donc j'attends de voir un peu son retour.
Très bien. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour Cumulonimbus, votre roman donc, qui est paru aux éditions Julliard. Merci beaucoup, Luc-Michel Foissier, d'être intervenu sur cette radio pour nous parler de ce livre. On vous souhaite le meilleur pour l'année 2024. Prenez soin de vous et à bientôt.
C'est moi qui vous remercie et je souhaite une longue vie au Salon du Livre de Chinon.
Merci beaucoup.
Tout en auteur. L'invité.
Cité Radio, la Positive Info est aujourd'hui au Salon du Livre de Chinon et nous sommes avec le président d'honneur de la manifestation. Bonjour, Éric Foissier.
Bonjour, ravi d'être là ici à Chinon pour un très beau salon du livre.
Et oui, on est ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes vraiment honoré d'être de retour en Touraine pour cet événement littéraire ?
Oui, ça me fait très plaisir parce qu'en plus, c'est le premier salon où je viens défendre mon dernier roman qui n'est même pas encore paru en librairie. On l'a là en exclusivité sur le salon. Mm-hmm. C'est le quatrième tome du Bureau des Affaires Occultes qui s'appelle le Champ Maléfique et Valentin quitte Paris les bas-fonds parisiens pour aller en Vendée.
Voilà, donc il sort le 2 mai, toujours aux éditions Albin Michel, donc le 4e tome du Bureau des Affaires Occultes. Alors, est-ce qu'on peut dire quelques mots de ce livre, donc, qui est une nouvelle enquête de l'inspecteur Valentin Verne, qui se déroule en mai 1832 en Vendée, au bord de l'insurrection?
Ben oui, en fait, on va demander à Valentin d'aller éclaircir une série de crimes mystérieux en Vendée. Un chant funèbre résonne la nuit en Vendée, dans le brouillard du bocage vendéen, et on retrouve des gens étranglés au matin. Et donc, on se demande ce que c'est. Est-ce que c'est une tentative de déstabilisation de la région par les espions de Louis-Philippe? Est-ce que c'est une malédiction, une secte, des meurtres crapuleux? Voilà, et on demande à Valentin d'aller éclaircir un peu tout ça, et il va se retrouver mêlé très vite à des événements qui le dépassent.
Oui, parce qu'on sait qu'on découvre notamment que le chant maléfique vient d'une mystérieuse créature funeste qui hante le bocage vendéen. Alors, on continue toujours dans la période des années 1830, qui a été déjà évoquée dans vos trois précédents ouvrages. Pourquoi ça reste encore une période intéressante à traiter avec sa part de mystère ?
Elle est intéressante parce que voilà, c'est un moment de changement dans la police où on s'oriente vers de la police scientifique. En même temps, c'est une période très instable d'un point de vue politique, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans ce livre, puisqu'il y a une tentative de soulèvement de la Vendée. Donc pour placer des intrigues policières, c'est vrai que c'est une période très propice parce qu'il y a des sociétés secrètes, il y a des complots. Et donc, en plus, le contexte historique, social de l'époque, économique, éveille plusieurs échos avec notre époque actuelle. Et donc, d'emblée, moi, quand j'avais commencé à réfléchir sur cette époque-là, je m'étais rendu compte que j'aurais besoin de faire une série avec héros récurrents, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la période. Et donc, ça explique pourquoi Valentin revient pour la 4e fois.
Donc, beaucoup de travail, de recherche, de documentation autour de ce livre, comme les précédents ouvrages?
Oui, parce que moi, l'idée, c'est vraiment de faire des romans où l'intrigue, où j'invente pas une intrigue comme ça dans l'abstrait et que je viens plaquer sur l'histoire qui me servirait simplement de décor. Non, moi, je veux vraiment que mes intrigues, elles soient complètement mêlées avec les événements historiques du temps, avec des personnages. Il y a toujours à chaque fois des personnages célèbres, réels de l'époque. Là, on trouve évidemment la duchesse de Berry, qui était la bru de Charles X, le roi parti en exil. On trouve Félix Arvers, qui était un poète de l'époque, évidemment aujourd'hui moins connu que les autres grands poètes de l'époque, que ce soit Hugo, Nerval. Félix Arvers, il présente la particularité d'avoir connu une célébrité très importante, mais à cause d'un seul poème, le sonnet d'Arvers. Et là, on découvre qui a pu inspirer ce sonnet, quelle est la mystérieuse inconnue qui a inspiré ce sonnet Arvers. Donc oui, gros travail documentaire, justement pour pouvoir retracer ces événements historiques qui vont être étroitement mêlés avec les intrigues que j'invente.
Voilà, donc on va pas trop divulgâcher, hein, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, c'est donc un nouveau livre à découvrir dès le mois de mai aux éditions Albin Michel. Et puis donc là, vous êtes présent aujourd'hui à Chinon. Il y aura d'autres rencontres qui vont se faire en librairie, dans des salons. Ça va commencer ?
Oui, beaucoup de dates prévues. Je vais aller dans beaucoup de salons, Festival sans nom, à Lille-sur-Tarn, chez Gérard Collard à la Griffe Noire au mois de juin. Enfin voilà, énormément de dates prévues à peu près dans toute la France. Donc voilà, il suffit d'aller sur mon site internet et on voit où je vais passer dans les 6 mois qui viennent.
Et en quoi aimez-vous votre métier de romancier et que représente l'écriture pour vous ?
Pour moi, mes parents m'ont donné ce goût du livre très tôt, de la lecture très tôt. Donc pour moi, les lectures, parce qu'en fait, avant d'être un écrivain, je suis un lecteur. Voilà. Ouais. Je suis avant tout un lecteur qui aime lire. Et donc du coup, pour moi, la lecture, l'écriture, c'est l'évasion. Mes parents m'avaient dit, tu sais, si tu aimes lire, tu ne seras jamais seul. Et c'est très vrai. Donc la lecture, on en a besoin. C'est finalement le seul loisir que l'on ne peut pas faire en faisant autre chose. Vous pouvez faire du sport en faisant autre chose, vous mettez des écouteurs et vous allez écouter de la musique en même temps, vous pouvez écouter de la musique, faire autre chose. Pour lire, faut être un minimum concentré, faut se plonger dedans, faut s'immerger dedans. Et à notre époque, on est tellement sollicité, où il y a des choses qui nous arrivent de partout. Voilà, lire, c'est se poser, prendre une heure pour se poser et finalement changer le monde, changer d'époque, ou au contraire avoir un regard plus aigu sur le monde grâce aux réflexions que vont engendrer les livres que l'on lit. Donc, ouais. Pour pour moi, c'est ça, c'est la lecture, l'écriture, voilà, c'est l'évasion, c'est par exemple pour mes livres, bah, c'est découvrir l'histoire de France en se laissant emporter par des intrigues policières et en fait, en même temps, on découvre des périodes, on découvre la vie quotidienne des gens à des périodes que l'on ne connaît pas ou peu ou pas assez, voilà.
Ouais. Donc c'est ce qu'on découvre effectivement dans tous vos ouvrages, Éric Foissier, et vous pensez sûrement à un prochain livre, peut-être un nouveau tome du Bureau des Affaires Occultes.
Alors maintenant, je vais passer à un rythme de tous les deux ans pour le Bureau des Affaires Occultes, je vais alterner avec des one-shot, donc des livres, un seul livre sans suite, sur deux époques, parce que j'ai envie aussi de varier un peu, et donc, mais pour ne pas laisser les fans du Bureau des Affaires Occultes sans rien, en fait, les années où il n'y aura pas de grand format Bureau des Affaires Occultes, il va y avoir du DBD, parce que ça va être donc adapté en BD, la première DBD sortira l'an prochain, 2025, et en fait, ça va pas faire doublon avec les livres, parce que ça va être des enquêtes inédites, et c'est un spin-off, le personnage principal, ça sera plus Valentin, ça sera Aglaé Marceau, donc la jeune actrice qui accompagne Valentin, et donc voilà, j'ai hâte aussi de voir ça, de voir mes livres mis en image par d'autres à travers cette BD.
Très bien, bah, en tout cas on encourage tous nos auditeurs et nos internautes à découvrir le 4e tome du Bureau des Affaires Occultes qui est donc Le Champ Maléfique à découvrir aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Éric Foissier d'être intervenu sur cette radio et puis on vous souhaite une très bonne journée en Touraine et à bientôt, merci.
Merci à vous, merci beaucoup.
L'actu locale en Touraine, c'est sur Cité Radio 89.3. L'essentiel de l'actualité littéraire est dans Tout en Auteur avec Guillaume Colomba sur Cité Radio.
Cité Radio, la positive info est aujourd'hui au Salon du Livre de Chinon et nous sommes avec l'invité d'honneur de la manifestation. Bonjour Daniel Thierry.
Bonjour.
Et merci de répondre à nos questions. Alors on va d'abord parler un petit peu de vous et de votre parcours. Comment est venu cet amour pour les mots en tant qu'écrivaine ?
Alors déjà parce que j'ai fait de la lecture, j'étais passionnée de lecture, des études de lettres classiques. Et puis la littérature, oui, l'écriture, mais l'écriture de polar, parce que c'est quand même mon domaine de prédilection. Et je dirais même exclusif, parce que j'écris rien d'autre.
Oui.
On ne fait que du polar. Donc comment ça m'est venu ? Ça m'est venu parce que, justement, les lectures, et puis 38 années dans la police.
Et quelle est pour vous la recette d'un bon polar ?
Alors recette, non, il ne faut pas rêver, vous ne trouverez aucune recette nulle part. Je pense que c'est une espèce d'alchimie qui va se créer entre l'auteur et le lecteur. Voilà, des fois, vous allez prendre des modèles, prendre des leçons. Il y en a qui vont faire des ateliers d'écriture, qui vont s'inspirer. Et puis, ça ne marche pas forcément très bien. Et on ne peut pas dire pourquoi. On n'en sait rien. Quand vous publiez un livre... Il va rencontrer le succès ou pas. Mmh. Et s'il rencontre le succès, personne n'est capable d'expliquer pourquoi. C'est le lecteur qui décide, dans tous les cas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les pieds au mur, la pub, vous répandre sur toutes les radios. Si le lectorat n'accroche pas, ça ne veut pas dire que c'est un livre raté, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais livre, ça veut dire que un bon livre, c'est quand même celui qui va rencontrer son lectorat, c'est son public.
Et justement, vous avez un public de lecteurs fidèles, puisqu'on voit que vous avez notamment obtenu le prix du Quai des Orfèvres en 2013. Donc c'est important de recevoir des différentes distinctions et que vos lecteurs, vos livres soient bien accueillis par le public et la critique.
Mais oui, c'est une reconnaissance. Et c'est un encouragement parce que moi, ça fait 30 ans, bientôt 30 ans que je publie des livres. Mmh. Si ça n'avait pas été le cas, donc j'aurais abandonné quand même. On n'est pas masochiste. Il faut persévérer quand même parce que ce n'est pas acquis. Au premier livre, il y en a qui ont cette chance qu'au premier bouquin, c'est un succès gigantesque. Ce n'est pas toujours le cas. Mais puis il y a des livres qui marchent moins bien en cours de route. On ne sait pas pourquoi. Il y en a qui fait un gros succès, le suivant, il n'est pas forcément à la hauteur. C'est très mystérieux, mais il faut quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Et ça, c'est quelque chose que les apprentis auteurs ou les gens qui veulent se lancer ou ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de succès parce que le public n'y comprend rien, c'est peut-être aussi qu'ils ont besoin aussi d'un peu travailler, un peu plus.
Bien sûr. Et puis donc, vous avez une actualité, Amnésie, donc votre nouveau livre qui est paru aux éditions Syros. Alors, est-ce qu'on peut dire quelques mots de ce livre, donc, où Olympe, la fille du commandant marin, enquête sur la mort suspecte d'un homme dans le dojo où elle pratique le karaté?
Oui. Donc voilà, c'est le point de départ de l'histoire, c'est ça. Et il y a aussi le fait que cette histoire va nous amener à nous intéresser à une histoire ancienne, parce que ce type qui est mort, il n'est pas mort par hasard. Évidemment, en tirant un petit peu les fils de l'histoire, on va se rendre compte qu'il était sorti de prison il n'y a pas très longtemps, il a été condamné pour meurtre, et que cette jeune femme qui enquête avec son... Enfin, elle n'enquête pas avec son père parce qu'elle n'est pas encore policière, elle le sera un jour, probablement, elle fait des études pour ça, des études de criminologie en particulier, qui va l'amener justement à s'intéresser à un certain nombre de situations. Dans celui-là, notamment, à tout ce qui est tuerie de masse, les tueurs de masse étant des gens très différents des tueurs en série. Ce sont des gens qu'on ne peut pas, qui avancent un peu à couvert, qu'on ne peut pas détecter. On ne sait pas quand ils vont passer à l'acte, on ne sait pas s'ils vont passer à l'acte. Et puis, ces tueries de masse prennent différentes formes, différents aspects. Et elle fait le lien assez vite avec la mort de ce type-là, devant son dojo, avec une affaire ancienne qui a été jugée, pour laquelle donc, cet individu avait été condamné. Et elle trouve qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas dans cette histoire. Et donc elle tire les fils pour essayer de déterminer ce qui s'est réellement passé.
Ouais. Voilà. On ne va pas trop divulgâcher.
On ne va pas divulgâcher, bien sûr que non. Mais ça nous ramène encore une fois à la persévérance qu'il faut montrer dans ce genre d'affaires. Ouais. Ne jamais se fier aux apparences, aller chercher derrière les miroirs. Ne pas se contenter de dire, c'est comme ça. Il y a forcément quelque chose. Derrière tout fait criminel, il y a forcément une histoire, forcément quelque chose.
Dans ce qu'on découvre dans votre livre. Alors, même si cela reste une fiction, on imagine qu'il y a un peu votre expérience personnelle dont vous êtes inspiré pour l'écrire ou pas du tout ?
Alors, mon expérience personnelle, elle commence à être déjà un petit peu éloignée parce que je suis à la retraite, mais depuis de la police, mais je suis toujours en contact avec le milieu policier, bien sûr, parce que flic un jour, flic toujours, comme on dit.
Bien sûr.
Et oui, alors ça fait appel quand même à des connaissances, ça fait appel à une connaissance du milieu, ça fait du milieu de la police, de l'enquête, celui des magistrats, des scientifiques, de la police scientifique, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas passer à côté. De la psychologie aussi, psychocriminologie. Donc évidemment que ça fait appel à tout ça et ça crée un ensemble de choses qui font qu'au bout du compte, on a une intrigue qui se construit justement autour d'une enquête multidimensionnelle.
Donc c'est ce qu'on découvre dans votre livre. Vous êtes présente aujourd'hui au Salon du Livre de Chinon. Vous êtes honorée d'être présente aujourd'hui et d'aller à la rencontre des lecteurs ?
Oui, je suis honorée, d'autant plus que je suis invitée d'honneur.
Et oui, c'est pour ça.
Et que le public est présent, intéressé. On a affaire à des gens qui ne viennent pas juste se promener, voir un peu comme c'est dimanche aujourd'hui, par exemple, se dire « tiens, je ne sais pas quoi faire, je vais aller au salon ». Non, il y en a qui sont venus exprès, de loin d'ailleurs, pour nous rencontrer. Ça, c'est bien, quoi. Enfin, c'est ce qu'on attend quand même un peu quand on vient dans ces endroits-là. Outre le fait que l'accueil est hyper chaleureux, que les gens sont adorables, aux petits soins, et qu'on a envie de revenir.
Et tout est dit, c'est parfait. Justement, vous aurez des rencontres qui sont prévues en librairie, dans des salons, dans les prochains mois ?
Alors oui, bien sûr, quasiment tous les week-ends sont pris par des salons, des rencontres. Parce que quand on a une actualité, comme on dit, il faut quand même aller... porter le livre, il faut le porter. Alors des fois ça se fait tout seul, ils n'ont pas besoin de nous, les bouquins, mais la plupart du temps il faut quand même les défendre. Et puis en parler avec les lecteurs, c'est important parce qu'on a le retour de lecture aussi. Le lecteur c'est quelqu'un de vivant, c'est pas juste une personne qui est derrière un écran ou derrière un réseau social qui va nous dire « j'ai bien aimé votre livre », les voir physiquement, c'est... Et pour eux, c'est également, je pense, important de voir l'auteur, de faire une petite photo avec lui, de se dire « il existe vraiment, c'est pas un avatar, c'est pas... »
Exactement, c'est très juste. Et puis, vous avez d'autres projets, Daniel Théry, peut-être un autre livre ?
Alors, d'autres livres, plusieurs en préparation. Et de la télé aussi, parce que mes livres sont adaptés en série. Donc je contribue à l'écriture des scénarios de la série. Puis d'autres projets dont il est peut-être prématuré de parler encore aujourd'hui, mais voilà. Mais en littérature, oui, bien sûr, toujours.
Eh ben, en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour Amnésie, votre roman qui est paru aux éditions Syros. Merci beaucoup, Daniel Thierry, d'être intervenu sur Cité Radio pour nous parler de votre livre. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée en Touraine et à bientôt. Merci.
Ben, merci à vous et bonne journée aussi.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qui avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux les yeux au fond des yeux. Ouais, et c'était bien, et c'était bien, et c'était bien.
San Severino sur Cité Radio avec le petit bal perdu.
À Chambray-les-Tours, on écoute Cité Radio sur le 89.3.
Tout en auteur. Guillaume Colomba.
Place au livre sur Cité Radio, la positive info, et nous accueillons Arnaud Delagrange pour évoquer un roman sensible et émouvant, étant à la fois une réconciliation et un hommage aux gens de la mer. Bonjour Arnaud Delagrange.
Bonjour.
Et merci de répondre aux questions de Cité Radio. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre activité puisque vous êtes journaliste et correspondant à Londres pour le quotidien Le Figaro ?
Oui, donc je suis journaliste depuis quasiment une trentaine d'années. Donc j'ai été en poste, j'ai toujours travaillé sur l'international. Donc j'ai beaucoup couvert l'Afrique, les conflits après. Puis j'étais en poste en Chine pendant 5 ans. Et puis maintenant, je suis en poste à Londres. Et alors c'est vrai que là, en passant... il y a quelques années à la fiction et à l'écriture de romans, et bien c'est vraiment une autre expérience, puisque quand on est journaliste, on écrit sur le réel et on est censé s'en tenir aux faits. Enfin, du moins, c'est quand même souhaitable. Alors que là, et bien tout à coup, c'est l'espace de liberté, de l'imagination dans l'écriture romanesque.
Et par le passé, vous avez été grand reporter, spécialiste des conflits armés, directeur adjoint de la rédaction Service étranger du Figaro. En quoi toutes ces fonctions ont été importantes dans votre carrière journalistique ?
Je suis rentré en fait dans ce métier parce que justement j'avais cet appétit pour pour courir le monde et le découvrir. C'est vrai que les conflits, ça m'a beaucoup apporté, non pas uniquement pour l'adrénaline, oui, il faut bien le dire, elle est là, mais parce qu'on voit... On voit les choses de manière exacerbée, c'est-à-dire on voit ce qu'il peut y avoir de pire dans l'espèce humaine très souvent, mais aussi on voit ce qu'il y a de meilleur avec des réactions incroyables. Et donc c'est un poste d'observation de l'âme humaine qui est évidemment très intéressant. Donc moi je pense que tout au-delà de l'aspect géopolitique et des relations internationales qui m'ont beaucoup intéressé, je pense qu'en fait toutes ces années de reporter et dans des situations parfois difficiles, eh bien m'ont permis d'explorer cette âme humaine et certainement, enfin je l'espère en tout cas, de pouvoir construire aujourd'hui des personnages dans mes romans qui en fait sont un peu nourris par toute cette expérience du réel.
Et justement, en tant qu'écrivain, comment est venu cet amour pour les mots ?
J'ai toujours aimé les mots. Je crois que c'est Flaubert qui disait que les phrases sont des aventures. Je pense qu'il y a un côté aventure dans les mots. Je me souviens aussi, j'ai plus la citation exacte, mais il y a un personnage de Shakespeare qui dit « les mots sont une armée pour qui sait s'en servir ». Ça m'a toujours fasciné de voir à quel point les mots pouvaient enchanter, pouvaient faire rêver, pouvaient galvaniser, pouvaient aussi décevoir parfois. Et donc, il y a une magie du verbe. Alors, le verbe, il peut être oral, mais moi, je suis beaucoup plus à l'aise, en tout cas, à l'écrit. Et je trouve que l'écrit, qui est parfois un peu malmené aujourd'hui, mais qui résiste quand même assez bien, a cette espèce de permet un recul, une permanence des choses. Je trouve une vocation universelle dans l'écriture, en tout cas telle que je la conçois, que je trouve qui m'a toujours beaucoup plu. Et c'est vrai que l'exprimer en fait, que ça soit d'écrire le monde tel qu'il est ou tel que je l'imagine par les mots, est pour moi quelque chose d'assez magique, même si c'est parfois compliqué et ça peut être douloureux aussi.
Eh bien, c'est ce qu'on retrouve dans votre nouveau roman, La promesse du large, hein, qui est donc votre troisième roman, qui est paru le 14 mars 2024 aux éditions Gallimard. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer l'histoire de ce livre avec Edan, qui revient en Bretagne pour éveiller les fantômes du passé et enquêter sur la mort de ses parents après le naufrage en mer de leur bateau en 1974?
Oui, alors en fait, Aidan, donc, est franco-irlandais, il a perdu père et mère, en effet, dans un naufrage quand il n'était que nourrisson, donc en fait, il ne les a pas connus, et il a préféré occulter ce drame absolu, parce que perdre ses deux parents, c'est beaucoup, et sans les connaître, il a préféré occulter, se dire qu'il n'avait pas d'histoire familiale, qu'il n'était né d'aucun ventre, d'aucun sang, et puis en fait, à l'âge de 26 ans, eh bien, tout à coup, il se passe quelque chose, et là, il se rend compte que ce n'est plus possible de nier ce passé, et que s'il veut avancer, il faut qu'il remonte la trace de ses parents, qu'il comprenne ce qui s'est passé, qu'il affronte ces fantômes-là. Et là, j'explore un peu le thème des blessures familiales non cicatrisées, parce qu'on sait bien, alors on n'a pas tous, d'ailleurs, Dieu merci, des histoires aussi tragiques, mais on est beaucoup de gens, tout le monde même à peu près, je crois, a eu des blessures intimes, familiales, personnelles, qui, si on les laisse de côté, on s'aperçoit en fait qu'elles nous pourrissent lentement et qu'elles nous empêchent d'avancer et qu'elles nous rendent très inaptes à la relation aux autres.
Et Aidan va tomber amoureux de Manon, une restauratrice de vitraux et passionnée par l'océan, qui va l'aider dans sa rééducation. Justement, comment avez-vous conçu l'intrigue de votre livre, qui est donc à la fois une quête et une enquête ?
Oui, alors c'est à la fois une enquête que j'ai voulu quand même pas trop sur le mode policier, parce que je voulais un roman d'atmosphère et un roman initiatique, donc il n'y a pas des rebondissements absolument incroyables, mais en effet il y a quand même ce retour, cette enquête, et qui en effet, comme vous le dites très justement, est une quête, parce qu'en fait c'est derrière son histoire et derrière son sillage, Aidan cherche à se construire lui-même, cherche à et à avancer. Et c'est cette jeune femme, Manon, en effet, restauratrice de vitraux, donc un peu à l'écart des activités, communes, enfin qui est un peu artiste, un peu rêveuse et en même temps une grande navigatrice, et qui, comme souvent les femmes, sont tombées dans les clichés homme-femme, mais je pense qu'il y a une très fine sensibilité, une forte compréhension de l'âme humaine, souvent chez les femmes, plus forte que chez les hommes. Donc elle va comprendre exactement ce qu'il faut pour déverrouiller Aidan, dont elle est tombée amoureuse, et pour le faire un peu renaître à la vie. Et c'est vrai qu'il y a, je pense que on a dans nos vies, qu'on soit homme ou femme, on a besoin pour se retrouver soi-même, pour se trouver même soi-même, j'allais dire, on a besoin de solitude, on a besoin de plonger en nous-mêmes. Personne ne peut le faire à notre place. Il faut prendre du temps, il faut parfois de la solitude pour le faire. Mais on a aussi besoin, parfois et souvent même, d'un détour par autrui pour ne pas rester dans un face-à-face intérieur avec soi-même. Et là, ce détour par autrui, ça va être par cette jeune femme avec cette histoire d'amour entre les deux personnages qui va être un peu compliqué d'ailleurs, puisqu'il y a aussi un ou deux fantômes qui vont se mettre entre deux.
On va pas en dire davantage, mais c'est aussi une histoire de résilience par la mère. Et justement, quel lien avez-vous avec la mère, Arnaud Delagrange?
Bien, écoutez, c'est vrai que c'est un peu une histoire de rédemption, de renaissance par la mer, par la beauté de la nature. Donc la mer, MER, hein, l'océan, pour le coup, joue un rôle très important dans ce roman, est quasiment un personnage à part entière. Et c'est un peu un cri d'amour à la mer, au monde de la mer, aussi aux marins, aux pêcheurs, aux sauveteurs en mer. Et il y a cette mer donc omniprésente qui pour moi est très importante. Moi, j'ai pas eu, Dieu merci, par exemple un destin aussi tragique qu'Aidan, que mon personnage, hein. Mais j'ai eu un très grave accident par exemple quand j'avais 18 ans qui a influé sur le cours de ma vie. Et c'est vrai que la mer à ce moment-là, la navigation à la voile, pour moi a été une planche de salut. C'est ce qui m'a permis de me rééquilibrer, de retrouver le goût à beaucoup de choses. Et aujourd'hui encore, cela reste ce que j'appelle le lieu juste pour moi, la mer, le lieu où je suis bien, dont j'ai besoin. Donc voilà, pour d'autres, ça peut être autre chose, hein. Chacun son lieu juste, encore une fois. Mais pour moi, il y a cette mer qui est en plus, je trouve, un des derniers espaces de liberté, hein. Je trouve que c'est quand même un peu peut-être banal de le dire, mais il y a Alessandro Baricco, cet auteur que j'aime beaucoup, qui dit « la mer est sans route, la mer est sans explication » dans un de ses romans. Et c'est vrai que la mer nous rend libre. Et puis je pense que même pour le plus épais des hommes ou des femmes, la mer incite au rêve, même si c'est aussi le concret, parce que c'est pas la navigation impose d'être dans l'action, mais c'est quand même un jeu de lumière et un jeu entre les éléments, le vent, la mer, qui ne peut pas laisser indifférent, à moins d'être vraiment très hermétique à toute la beauté du monde.
Et comment avez-vous travaillé avec les éditions Gallimard pour ce nouveau livre?
C'est le deuxième livre que je fais chez eux, après le huitième soir, qui se passait au Vietnam dans les années 50, donc c'est très différent. Mais écoutez, l'histoire leur a beaucoup plu. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des allers-retours intéressants avec donc les éditeurs chez Gallimard, et ils m'ont demandé notamment à un moment de reprendre mon texte à très juste titre pour l'améliorer en me donnant des indications. Et je pense que c'est précieux de pouvoir retravailler un texte, parce qu'on a toujours de l'extérieur, on se dit peut-être qu'un roman ça sort comme ça d'un premier jet, mais je pense qu'en fait derrière c'est aussi beaucoup de travail, c'est un peu comme en mer, il faut tirer des bords parfois, on n'avance pas tout droit, le vent est parfois contraire, donc il faut savoir composer avec les choses pour arriver à destination.
Et par le passé, vos romans ont été récompensés, vous avez obtenu le Grand Prix Jules Verne 2018 pour Les Vents Noirs et le Prix Roger Nimier et le Prix littéraire de l'Armée de Terre Erwan Bergo en 2019 pour le huitième soir. Cela est important pour vous de recevoir toutes ces distinctions et que vos livres soient bien accueillis par le public et la critique?
Écoutez, les distinctions, on va pas les bouder. C'est toujours plus agréable d'avoir un prix littéraire que de se prendre une porte dans la figure, si vous me permettez. Mais je pense que c'est bon. C'est pas non plus. C'était des prix qui m'ont beaucoup plu. Jules Verne, ça m'a plu parce que évidemment, ça faisait référence à tout mon imaginaire de jeune homme, de tout ce que j'avais pu lire. Donc voilà, Roger Nimier aussi, c'est un prix qui est en plus dans le milieu littéraire est un bon marqueur. Donc voilà, c'est intéressant. Mais je pense que là, le principe n'est pas là. Je crois que ce que je le vois, en tout cas d'ailleurs avec ce nouveau roman, avec La Promesse du Large, je le vois par exemple avec les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux qui ont aussi des côtés très négatifs mais aussi positifs pour ce genre de choses, où j'ai des retours de blogueurs, blogueuses, de gens qui lisent le livre, et donc de voir que l'accueil est compris et de voir surtout que votre intention de ce que vous avez voulu mettre dans le livre est saisie et touche des gens, ça c'est vraiment très intéressant, avec d'ailleurs quand même toujours le fait que tout le monde ne voit pas exactement la même chose dans un livre, tout le monde ne retire pas forcément les mêmes choses, et c'est ça qui est intéressant, et là aussi c'est un peu mal de le dire, mais un livre se fait, c'est l'auteur, mais aussi le lecteur, c'est un espèce de duo, et le lecteur, chaque lecteur a sa sensibilité propre et sa propre lecture d'un livre. Et voilà, et donc c'est ça surtout qui est gratifiant. Ça peut être dans des rencontres en librairie aussi, ou dans des salons du livre, de voir que les gens apprécient ce que vous avez écrit. C'est plutôt agréable.
Et justement, vous allez promouvoir votre ouvrage dans des rencontres en librairie, dans des salons?
Oui, il y en a un certain nombre. Alors, je ne fais pas une tournée mondiale, je n'ai pas eu le prix Goncourt, mais il y a un certain nombre de salons, certains qui vont se passer d'ailleurs dans l'ouest de la France, en Bretagne, ce qui me plaît bien puisque l'histoire se passe là-bas. Mais là, je vais au salon de hier, par exemple, dans 15 jours. Et c'est toujours agréable parce que même s'il y a beaucoup de monde, les gens passent, mais je trouve qu'il y a toujours des échanges intéressants. Et dans les librairies aussi, on sait combien les libraires sont importants pour défendre les livres, et souvent quand c'est pas juste une simple dédicace, mais quand il y a une rencontre avec le libraire qui vous interroge sur le livre, c'est souvent assez passionnant et très pointu, et ce sont des gens qui ont une telle sensibilité littéraire, ils sont tellement habitués à lire des livres qu'ils sont souvent très pertinents dans leurs questions, et aussi la plupart du temps très bienveillants pour vous soutenir.
Et quels sont vos projets journalistiques, littéraires?
Écoutez, là pour le moment je suis toujours en poste à Londres pendant quelques temps, en espérant d'ailleurs, en souhaitant une longue vie au roi, parce que durant mon mandat en Angleterre j'ai enterré la reine, et j'aimerais bien que le roi qui est malade, comme vous le savez, ait un règne un peu long. Non, je disais ça, c'est un clin d'œil, mais il n'y a pas que les sujets monarchiques ici, il se passe beaucoup de choses en Angleterre depuis le Brexit, donc moi j'y reste pour le moment. Et côté littéraire, évidemment, dès qu'on a terminé un livre, on a plutôt tendance à penser à celui d'après, et c'est vrai que là j'ai une histoire qui me tient beaucoup à cœur, mais qui va être un défi à relever. J'ai commencé à écrire deux chapitres, ça a l'air de fonctionner, mais ce n'est que le début, et oui, c'est un défi parce que je vais me mettre dans la peau d'une femme, et en écrivant à la première personne, donc je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que c'est pas toujours complètement évident à faire, mais enfin c'est en tout cas un défi qui m'intéresse.
Et on vous souhaite en tout cas le meilleur pour La Promesse du Large, votre roman paru aux éditions Gallimard, et puis on vous souhaite évidemment bon courage dans votre métier en tant que correspondant à Londres pour Le Figaro. Merci beaucoup Arnaud Delagrange d'être intervenu sur Cité Radio pour nous parler de vos actualités. On vous souhaite le meilleur pour l'année 2024, prenez soin de vous et à bientôt.
Merci beaucoup.
Et nous marquons une dernière pause musicale avec Joe Cocker.
What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me and the way to find that you're not there? What do I do to make you want me? What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more uncertain. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? All it seems to me, sorry seems to be the hardest word. Thank you.
the hardest word. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I got to do? What have I got to do? I'm sorry, seems to be the hardest word. Yes, the hardest word.
La Positive Info, c'est en Touraine que ça se passe, sur le 89.3, avec Cité Radio. Toute l'actualité littéraire est dans Tout en Auteur, sur Cité Radio.
Place au livre sur Cité Radio, La Positive Info, et nous accueillons Hélène Gestern pour évoquer une saga familiale bouleversante touchant le lecteur en plein cœur de la Bretagne. Bonjour Hélène Gestern.
Bonjour Guillaume.
Et merci de répondre aux questions de Cité Radio. On va d'abord parler un petit peu de vous et de votre parcours. Comment est venu cet amour pour les mots en tant qu'écrivaine ?
Ça vient de l'enfance, puisque c'était des enfances où on lisait beaucoup, beaucoup plus que maintenant. Et puis, en étant beaucoup à la campagne, avec finalement peu d'occupations en dehors de la nature, bah, la lecture c'est devenu assez vite une occupation centrale. Et puis, je sais pas vraiment d'où vient l'envie d'écrire, mais c'était là depuis longtemps.
Et vous avez des auteurs favoris ?
Ah, j'ai beaucoup d'auteurs favoris, j'ai une bibliothèque entière d'auteurs favoris, j'en ai énormément, oui, il y a des gens que j'ai énormément lus, j'ai beaucoup lu Georges Pec, j'ai énormément lu Anne-Marie Gara, que j'ai eu la chance de connaître, qui a été une personne tout à fait déterminante pour moi. Je suis une grande lectrice d'Annie Ernaux, dans un autre registre, j'aime beaucoup lire Jean Rollin, et puis bah, j'ai lu mes classiques comme tout le monde, avec certains romans, j'aimais beaucoup lire Stendhal, j'aimais bien Gide, enfin je suis une lectrice quoi.
Donc une lectrice passionnée, hein, c'est moins que l'on puisse dire, avec des auteurs très éclectiques. Et puis donc votre actualité Hélène Gestern, c'est Ces Ambres, hein, votre roman qui est paru le 27 mars 2024 aux éditions Grasset. Alors est-ce que vous pouvez évoquer l'histoire de ce livre avec Yann de Kerembrun qui quitte son poste de professeur d'histoire à Paris pour emménager au Couéron, la maison familiale située à Saint-Malo face à l'île de Ces Ambres?
Oui, bah c'est un monsieur qui est passablement fatigué, qui attrape la mauvaise cinquantaine, qui est fatigué de sa vie et de pas mal de choses. Et à l'occasion du décès de son père, il va décider de retourner pour une année en Bretagne, s'installer dans la maison familiale. Et à cet endroit-là, il va découvrir, en voulant faire de la place tout simplement pour s'installer dans un bureau, il va découvrir des livres de raison, des carnets quotidiens qui ont été tenus par son arrière-grand-père qui avait fondé une grande compagnie maritime qui envoyait des navettes entre Saint-Malo et les îles anglo-normandes. Donc il va s'intéresser au passé de cette compagnie qui implique aussi l'île de Ces Ambres, qui a été une île qui a une histoire extrêmement riche à travers les siècles, et puis au passage il va soulever quelques lièvres et dénouer quelques nœuds qui étaient enfouis dans la plaine générationnelle.
Et quel a été le point de départ et comment avez-vous conçu l'intrigue de votre roman entre passé et présent, tout en évoquant donc la légende de l'île de Ces Ambres et les non-dits familiaux?
La construction entre passé et présent, je l'avais déjà expérimenté une fois avec un roman qui s'appelle L'odeur de la forêt, qui vient surtout du désir d'entremêler l'histoire individuelle des personnages à la grande histoire, ou en tout cas une histoire plus vaste. Donc là, il y avait l'histoire de la côte bretonne, l'histoire de l'île de Ces Ambres, et puis une problématique aussi qui est évidemment la problématique de la transformation du lieu par la main humaine, parce que la main humaine a exercé son emprise à Saint-Malo comme ailleurs. Donc il y a conflit finalement entre la nature et la culture, entre l'homme et la nature. Donc mettre en scène un personnage contemporain qui enquête sur des archives, ça permet justement d'entremêler les deux dimensions et puis de faire que la voix individuelle singulière du personnage devienne aussi une voix collective et porte au-delà finalement d'une seule histoire ou d'une seule vie.
On vous qualifie d'ailleurs de romancière de l'archive et de l'investigation. C'est un terme qui vous va bien ?
Ah, moi, ça me va très, très bien. En fait, quand j'étais petite et que j'aimais bien lire, je rêvais d'être détective. Donc, je ne suis pas devenue détective, mais j'essaye de me rattraper un peu en écrivant des romans.
Oui. Et vous qui résidez dans l'Est, ça a été une envie que vous aviez de faire l'action de ce livre en Bretagne. Et est-ce que vous aimez cette région ?
Ah, je l'aime à la folie, cette région. Ça fait très longtemps que j'y vais. Et d'ailleurs, l'idée m'est venue quand je me promenais sur l'île de Jersey, en regardant comme ça cette lumière. Il n'y a pas que la mer, il y a la lumière. Enfin, tout est fascinant là-bas, tout est beau. C'est d'une beauté magnétique. Donc, après avoir regardé très longtemps ce paysage, sans me lasser de sa beauté jamais, en étant à chaque fois plus subjuguée que la précédente, la tentation d'en parler était assez grande. Mais encore, fallait-il trouver le moyen. Parce que, bon, mettre un personnage face à la mer pendant 200 pages de contemplation, c'est un peu difficile. Donc, il faut organiser d'autres ressorts pour que cette contemplation devienne finalement active.
Et c'est vrai que la Bretagne est un personnage à part entière avec de nombreuses descriptions qui sont très somptueuses avec les paysages, la mer et la plage. Et d'ailleurs, dans une interview, Hélène Guestern, il me semble que c'était pour Sud-Ouest, vous dites que vous n'aimez pas le terme de secret de famille, mais il est pourtant question d'héritage et de transmission dans votre roman. C'est cela que vous avez souhaité aussi montrer dans votre livre ?
Oui, tout à fait. C'est pas que j'aime pas le terme de secret de famille, c'est que depuis mon premier roman, on m'a un peu cantonnée à ça, romancière du secret de famille, et je trouve que le secret de famille, c'est intéressant, mais c'est un peu étroit, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas que son histoire, il y a l'histoire des autres aussi, il y a l'histoire du monde de façon générale, il y a l'histoire de la société, il y a la politique, l'écologie, bon, tout ça, ça fait partie aussi de la narration, ça revient dans des éléments. Donc le secret de famille, c'est surtout le moteur de l'enquête, justement, parce que on peut avoir des personnages qui vont puiser leur motivation dans le désir de comprendre ce qui a pu leur arriver à eux, ce qui a pu arriver à leurs ascendants, ce qui a pu se briser dans la chaîne générationnelle. C'est vrai que la question de la transmission, c'est une question qui est assez centrale pour chacun d'entre nous. Mais encore une fois, avec l'idée que cette enquête puisse peut-être aller au-delà de sa seule individualité et puisse amener les personnages à s'intéresser finalement à ce qui les entoure dans le présent et dans le passé de manière un petit peu plus large.
En tout cas, ce roman est très dense puisqu'il fait 555 pages. Il est aussi sublimement et subtilement écrit avec des chapitres courts, une écriture très maîtrisée. Comment avez-vous travaillé avec les éditions Grasset pour ce livre ?
Beaucoup travaillé parce qu'il était encore plus long qu'il ne l'est. Je précise qu'il fait 555 pages par hasard. Ça s'est trouvé comme ça quand j'ai terminé le manuscrit. Et curieusement, ça a résisté aux opérations de mise en page, de coupe. Donc, il y a eu un travail de réduction parce qu'il était encore plus long et que bon, c'est déjà très long. Et puis, un travail de reconfiguration de certains chapitres, comme les chapitres sont courts, il y a eu du travail de remembrement parfois de certains chapitres qui ont été regroupés, et puis il y a eu des suggestions de coupe ou de suppression qui ont parfois été suivies et parfois pas, puisqu'une discussion avec un éditeur est toujours ouverte, hein. Au bout du compte, c'est l'auteur qui a le dernier mot, mais l'idée était peut-être parfois de recentrer des choses qui pouvaient être un peu trop longues ou un petit peu descriptives, donc de trouver un équilibre entre finalement l'action et la contemplation, qui sont très présentes dans ce livre-là, et puis, d'arriver à maintenir au milieu des différences de rythme une sorte de rythme général qui aille quand même vers l'avant, parce que c'est toujours le risque de, quand on porte un très long livre comme ça, c'est le risque de l'enlisement. Donc il faut être certain qu'il y aura toujours à un moment donné une rythmique qui va reprendre le dessus, comme dans une pièce symphonique en fait, qui peut avoir des moments lents et qui peut avoir des moments plus rapides, mais il doit y avoir une rythmique générale. Et ça, c'est l'éditeur qui veille justement à ce que, à un moment donné, le roman ne s'enlise pas ou ne tombe pas en panne.
Et depuis la sortie du livre, vous avez eu un bon accueil des lecteurs, des internautes ?
Alors, pour l'instant, l'accueil, les retours de lecteurs sont très très bons. Les internautes, je vous avoue que je ne regarde pas trop parce que sur Internet, il y a toutes sortes de commentaires qui peuvent être parfois un peu expéditifs, donc c'est peut-être pas forcément s'exposer à ça. Les échos des gens, les échos de la presse sont plutôt bons pour le moment. Donc, et puis les amis surtout qui ont fait un accueil très très chaleureux. Donc oui, les échos que j'ai reçus jusqu'à présent sont bons. Et ce qui me touche dans ce qu'on a pu me dire, c'est que justement les gens ont parfois eu la sensation de retrouver le paysage à travers les pages et de retrouver les sensations qui sont données par la mer, MER, c'est-à-dire pas seulement le bruit de la mer, pas seulement l'eau, mais aussi la lumière, les embruns, le vent. Et ça, c'est très gratifiant de se dire qu'on a pu, juste à travers des mots, recréer la sensation.
Et par le passé, vous avez été récompensé par de nombreux prix, comme le prix René Fallet, le prix littéraire des lycéens d'Île-de-France, la feuille d'or de la ville de Nancy, ainsi que le grand prix RTL Lire et le prix relais des voyageurs lecteurs en 2022. C'était pour votre roman 555 qui était paru aux éditions Arléa. Cela vous fait chaud au cœur de recevoir toutes ces distinctions et que vos ouvrages soient bien accueillis par le public et la critique ?
Ah bah oui, c'est toujours formidable quand un ouvrage est bien accueilli, parce que quand un ouvrage est mal accueilli, bon, on le surmonte, mais c'est toujours difficile. Et puis c'est vrai que les prix, ça offre aussi une visibilité qu'on n'aurait pas forcément. Et il y a des moments qui sont, pour 555, j'ai eu un prix qui s'appelle le prix du public des musiciens. Et ça, c'est quand on n'est pas musicienne soi-même, enfin, recevoir un prix comme ça, c'est plus que gratifiant, quoi. On a vraiment l'impression d'avoir réussi dans une entreprise qui n'était pas évidente ou qui pouvait être difficile. Donc, on est toujours très reconnaissant quand on reçoit un prix. Parce que oui, on a d'une certaine façon délivré quelque chose, lancé un message, et puis tout à coup, on a une réponse.
Et pour vous, quel est le rôle de l'écrivain dans notre société ?
C'est difficile de le dire, de le définir comme ça. Surtout que là, c'est très violemment questionné par l'intelligence artificielle qui menace de remplacer finalement toute l'activité de l'esprit, que ce soit écrire des romans, écrire du journalisme, écrire quoi que ce soit, ou même peindre, faire des photos. Donc, je ne sais pas si l'écrivain, à proprement parler, a un rôle dans une société. Peut-être qu'il apporte justement la gratuité. Puisque dans un monde où on est quand même très... Le monde capitaliste est quand même beaucoup dans le calcul et dans l'utilité, hein, on peut pas le dire autrement, et l'écrivain, il apporte une forme de choses non nécessaires d'un point de vue strictement économique ou même matériel, mais il apporte la possibilité de rêver, de partir dans d'autres histoires, d'explorer des chemins qu'on ne connaît pas encore. Et puis, il apporte une forme de... Mais dans le beau sens du terme, une forme de gratuité. C'est-à-dire que quand on lit, on est obligé de rien, on est tenu à rien, on peut rêver comme on veut, on peut s'évader comme on veut. Et il y a quelque chose de très puissant là-dedans. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire quelque chose ou de justifier de quelque chose ou d'avoir une utilité. Après, il y a d'autres écrivains qui... et ils le font très bien, qui portent des messages sociaux extrêmement forts. Et ce sont des gens importants, les gens qui travaillent comme ça. Moi, je ne pense pas que je sois ce type d'écrivain-là, mais on dit quand même des choses dans les livres, on dit les choses auxquelles on croit. Et le monde qu'on est en train de vivre, il est vraiment pas drôle, il est extrêmement violent. Et de mon côté, ce que j'essaie d'apporter, c'est une forme de douceur.
Et vous avez d'autres projets, Hélène Gestern, peut-être un autre livre ?
Pour l'instant, peut-être me reposer un peu parce que 4 ans de travail, c'était long. Et puis, il y a d'autres impératifs de la vie quotidienne. Alors, évidemment, on pense toujours à des projets, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la forme. Donc, je dirais que c'est une phase de réflexion et c'est bien aussi de se donner le temps de la réflexion.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Hélène Gestern d'être intervenue sur Cité Radio pour nous parler de votre actualité. On rappelle donc le titre de votre livre « Ces ambres » qui est paru aux éditions Grasset. On vous souhaite le meilleur pour l'année 2024, prenez soin de vous et à bientôt.
Merci, un grand merci.
Tout en auteur se termine pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à réécouter cette émission sur notre site citéradio.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt sur Cité Radio.
J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou, un peu trop fou. Ça va pas durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser. Crise après crise, j'arrive plus à être moi. On connaît tous la pression, tu te sens un peu seul au monde. C'est pas qu'une impression.